Le réseau Afrique Santé de la Voix de l'Amérique propose
Votre santé, votre avenir.
Votre santé, votre avenir est exclusivement axé sur la lutte contre le sida en RDC.
Avec à la technique Jackson 8 et à la réalisation Fatma Kalala, au micro Khalil Gueye, votre santé, votre avenir commence maintenant. Objectif 3.0, c'est la grande mission de l'ONU-SIDA d'ici 2015. Notre invité, c'est
Thérèse Omari. Je travaille pour l'organisation Fondation Femmes Plus, qui est une organisation d'accompagnement psychosocial des personnes vivant avec les VSD et des personnes affectées, ainsi que les survivantes de violences sexuelles. Je suis la responsable pour la ville de Kinshasa, très heureuse de participer à l'émission Votre santé, votre avenir.
Merci Madame Omari, vous restez en ligne et nous aurons aussi des auditeurs. Nous serons avec Claude Kiavanga. À Matadi.
Oui, bonsoir, je vous écoute très bien. Bonsoir à tous les amis, à tous les auditeurs de la.
Merci Claude, restez en ligne. Nous aurons aussi
Manassé Von Mini Tibouy,
qui est à Kasumbalesa, près de la Zambie. Et nous aurons aussi les reportages de nos différents correspondants.
Génération sans sida République démocratique du Congo est possible s'il y a la volonté politique. Goma, Mustapha Kemal.
Il faudra attendre que les scientifiques inventent un vaccin contre le sida, car avec juste les antirétroviraux, on ne parviendra pas à une génération sans sida. Mbujimayi Jean-Hubert Bondo.
Au Sud Kivu, les acteurs de la lutte contre le VIH-Sida militent pour la réussite de la campagne Objectif Zéro de l'ONU-Sida. Bukavu, Mitima de la Chance.
Faute de moyens conséquents, la génération sans sida comparable à un simple slogan. Ici Kananga, Patrick Mukengeshai.
L'objectif du millénaire est connu depuis des années. Un monde sans sida d'ici 2015. À Goma, cette vision est loin d'être réalisée. De Goma à Walinda Estelle.
Thérèse Omari, quel sens donnez-vous au mois de la femme dans la lutte contre le sida en RDC?
Merci pour les préoccupations. Quel sens nous donnons au mois de la femme dans le domaine du VIH-Sida? C'est un temps de réflexion, un temps de l'état des lieux pour faire qu'est-ce qui a été fait pour la femme afin qu'elle puisse jouer le rôle qui est le sien pour arriver à cet objectif que l'ONU-SIDA s'est fixé pour une génération sans sida. Donc la femme qui prend un peu l'image, le VIH féministe, le VIH prend l'image de la femme. Parce que les femmes sont de plus en plus exposées, infectées au VIH chez son partenaire masculin. Et c'est une occasion de pouvoir réfléchir, comme l'autorité morale de cette journée internationale de la femme a voulu qu'il y ait plus de réflexions, des activités de réflexion qui festives, comme ça a été dans les années passées. C'est le moment pour nous pour se dire qu'est-ce que la femme fait pour contribuer à cet objectif.
Merci madame. L'ONU-SIDA a pour objectif ce qu'on appelle l'objectif 3.0, zéro nouvelle infection, zéro nouveau décès lié au sida et zéro discrimination. Est-ce que ces objectifs pourront être atteints sans des actions visant à éliminer d'ailleurs la discrimination qui est à la base vraiment de la lutte contre le sida?
Ces trois objectifs ne pourront jamais être atteints si les discriminations, si les problèmes liés aux inégalités vis-à-vis de la femme ne sont pas traités à leur juste valeur. C'est pourquoi tous les partenaires mettent les moyens pour analyser les causes des inégalités et mettre les stratégies pour les éradiquer.
<t'-> Nous allons écouter notre correspondant à Goma qui nous dit que l'objectif zéro décès lié au VIH et zéro infection ainsi que zéro discrimination est un rêve à Goma, car l'implication de la politique du gouvernement n'est pas visible. Selon les PVV de la ville de Goma, interrogés par notre correspondant, il est impossible d'envisager une génération sans sida au moment où il y a rupture des ARV, surtout au moment où il y a le désengagement de Médecins du Monde, MDM, dans la prise en charge des PVV. Ceci constitue encore un obstacle de plus pour atteindre l'objectif.
Le vrai sens de ces discours-là, c'est un rêve pour nous. Présentement, c'est difficile de dire qu'on aura d'ici l'année 2015 une génération sans sida. C'est pratiquement impossible. Pourquoi? Les PVV qui sont auteurs du virus ne sont pas bien encadrés. Quand on n'a pas à faire, on se donne aux activités sexuelles. Deuxièmement, on a un problème sérieux pour la PTM. PTM, c'est la prévention de la transmission du VIH de la mère à l'enfant.
C'est Madame Amina Massoudi, PVV de son état, qui souligne que dans la ville de Goma, il y a la rupture des médicaments. Monsieur Jimmy Basila est optimiste si le gouvernement s'y implique.
C'est possible si, seulement si, il y a la volonté politique. Il y aura la génération sans sida, ou soit les taux de VIH va diminuer si tout simplement il y a la volonté politique, parce que ça nécessite beaucoup de moyens.
Dès qu'il y aura les ordonnances pour les PVV, il ne faut pas espérer à la génération zéro sida, insiste Madame Amina Massoudi.
Les médicaments sont chaque fois en rupture. Moi qui vous parle ici, je suis en deuxième ligne, là où je prends les calétra, les didonazine, mais présentement les calétra n'est pas dans les structures. Il y a aussi les gens qui prennent le tenofovir. Il y a toujours rupture, zéro décès, c'est-à-dire la prise en charge est correcte au moment où on manque de médicaments dans les structures. Les médicaments des infections opportunistes, il n'y en a pas. Chaque jour, on donne des ordonnances. Au moment où la PVV est la plus vulnérable de la couche des populations, où est-ce qu'on peut trouver l'argent de prendre en charge les PVV? Et surtout, le désengagement des Médecins du Monde dans la prise en charge, vraiment, ça nous cause un problème sérieux.
Jimmy Basila dit aussi qu'il est impossible suite à la pauvreté et taux de chômage qui monte la hauteur.
Le taux de chômage est énormément élevé et par là, je ne sais pas si on peut avoir une génération sans sida dans notre pays. Si on ne parvient pas à éradiquer la pauvreté qui gangrène notre population de la République démocratique du Congo.
En ligne de Goma, Moussafir Moulopo et Moustapha Kemal, votre santé, votre avenir, la voix de l'Amérique.
Votre santé, votre avenir est aussi sur Facebook. Écrivez-nous pour proposer des sujets relatifs à la lutte contre les sida en RDC et aux violences sexuelles. Vous pouvez aussi participer à l'émission en nous communiquant votre numéro de téléphone et votre email.
Madame Thérèse Marie, quelle est votre réaction après avoir écouté ce reportage de Goma où on a eu surtout l'intervention de Madame Amina Massoudi qui déplore le manque de médicaments?
Ces différentes interventions me ramènent à la réalité de chaque jour que je vis comme responsable d'une organisation qui accompagne les personnes vivant avec le VIH/SIDA. C'est une réalité, c'est le vécu. Parce qu'en dépit de la gratuité proclamée dans la loi portant protection des personnes avec le VIH/SIDA, il y a certains problèmes opérationnels qui se posent dans la prise en charge de ces dernières. Il y a la rupture des SOC, des ARV, il y a le suivi biologique qui est payant, il y a la pauvreté aiguë de ces dernières, l'enquête indécisement que l'Union commune des personnes avec le VIH a réalisé en 2012 l'a démontré. Il y a tous ces fléaux. Il y a aussi le désengagement. Il y a les désengagements de certains bailleurs de fonds. Et je voudrais préciser que Médecins du Monde n'est pas un bailleur de fonds. Médecins du Monde, c'est une organisation internationale qui est à Goma, qui peut-être pour une raison ou une autre pourra peut-être lui donner l'occasion de pouvoir s'expliquer. Mmh. Mais au-delà de décrier le désengagement
des médecins du monde, j'aurais souhaité que les personnes qui ont décrit la situation puissent mettre le gouvernement national et le gouvernement provincial devant leurs responsabilités. Parce que le rôle régalien de l'État, c'est de garder la santé. La santé, c'est un des rôles régaliens de l'État. La souveraineté sanitaire, comme disent les activistes. Quoi. Mmh. Donc je voudrais ici relayer la voix de toutes ces personnes avec le VIH-SIDA pour dire au gouvernement national, pour dire au gouvernement provincial, parce que la santé, c'est un des domaines où la décentralisation est effective. Donc il faudrait que le gouvernement provincial puisse prendre ces défis en main et le relever, en fait d'assurer la prise en charge des qualités des personnes avec le VIH, aussi dans la mesure du possible essayer de résoudre les problèmes liés à la survie, à l'autonomisation des personnes avec le VIH, leur octroyer des activités génératrices de revenus, faire leur suivi, parce que c'est une potentialité. Dans le cadre de l'élaboration de la note conceptuelle, qui est une proposition du Fonds mondial, on a eu à élaborer un cadre d'investissement pour le VIH. Ce cadre d'investissement nous a montré que une infection VIH évitée vaut 12 000 $ et un décès évité vaut 8 800 $. Je crois que ce sont des éléments importants que tous les acteurs, personnes avec le VIH/SIDA, acteurs de mise en œuvre responsables des organisations à Goma ou ailleurs, peuvent amener auprès de leur gouvernement provincial et ramener au niveau du gouvernement central pour que le gouvernement mette les moyens en fait de pouvoir faire face à toutes les difficultés que nos amis de Goma ont relevées ici.
Merci pour ces précisions, Madame Omari. Nous allons retrouver Claude Kiavanga à Matadi. Claude.
Oui, bon, j'ai bien suivi les interventions des uns et des autres, mais le vrai problème qui se pose en matière de santé, c'est que le budget national ne prévoit pas vraiment un financement suffisant. Et ce qui fait qu'il y a beaucoup de difficultés en ce qui concerne les activités liées à cette théorie. Parce que pour moi, c'est une théorie zéro infection ou zéro décès. Parce que la lutte, elle est permanente. On la voit, on le sensibilise dans les médias, dans plusieurs sources. Mais en réalité, on ne voit pas vraiment la visibilité des activités ou des actions qui sont menées sur le terrain. Donc, moi, je pense que si on pourra faire un effort, nous devons d'abord faire cet effort-là de ne pas dépendre des partenaires. Parce que la santé en RDC, surtout nous dans la province du Bas-Congo, elle est plus motivée par l'appui des partenaires. Donc c'est dans ce sens-là, si je pourrais même poser la question à l'intervenante, alors quels sont les efforts qu'ils sont en train de fournir? Parce que je sais que tout ce qu'ils sont en train de fournir comme effort, ça dépend du financement extérieur. Alors, en tant qu'organisation, est-ce qu'ils ont mis des mécanismes en place ou une stratégie en place pour prévenir à la longue la pérennisation même de ces projets? Parce que pour moi, c'est un projet qui peut même prendre fin dès que le financement va cesser. Mmh. Alors, quels sont les mécanismes qu'ils ont mis en place pour essayer un peu de pérenniser ces activités? Parce que, en quelque sorte, ils risquent de faire de la théorie et pour ne pas arriver à la pratique.
Madame Omari.
Oui, merci. Qu'est-ce que nous faisons comme organisation pour pouvoir pérenniser ce plaidoyer? Nous faisons des actions auprès du gouvernement national au niveau dans les différents bureaux où nous sommes. Au niveau national, sans plus Nagi Passel, elle est en plateforme avec d'autres organisations de la société civile que nous appelons Contention pour le VIH. Nous avons eu à écrire plusieurs courriers auprès du ministre de la Santé à l'époque, auprès du ministre du Plan, pour que l'État congolais puisse allouer une ligne budgétaire VIH. En 2012, on a écrit une lettre au Premier ministre, pour lui faire voir que la RDC était l'un des pays, si pas l'unique pays en Afrique subsaharienne qui ne parvenait pas à acheter les ARV. Les ARV, ce sont les médicaments qui stoppent l'évolution du VIH pour ses bénéficiaires. Et on a aussi pu souligner que la RDC avait la couverture la plus faible, moins de 30% des personnes qui sont sous traitement, Et cette correspondance a permis au chef du gouvernement de pouvoir faire appel aux services techniques du ministère de la Santé et du PNMLS pour vérifier si les doléances de la société civile étaient exactes, ce qui a été confirmé par ces deux services techniques. Et il a pu faire à son âme au directeur Okeng, qui était médecin directeur du PNLS à l'époque, qui a été convié pour la première fois à l'équipe conjointe sur l'élaboration du budget de l'État. Et là, il a été promis que le gouvernement devra mettre 3000 personnes sous traitement sur le compte du gouvernement congolais. Ça serait une première si cela était effectif. Et ça, c'est le travail que les organisations réalisent au niveau de Kinshasa. Mais ce même travail peut être relayé au niveau provincial, que les différents gouvernements provinciaux puissent mettre une ligne budgétaire pour les personnes qui sont sous traitement. Ça, c'est une chose, allouer l'argent. L'autre chose, c'est de pouvoir les décaisser. Et quand l'argent est décaissé, il faut pouvoir suivre la traçabilité de ces fonds-là. Parce que ces 5 dernières années, pour votre information, il y a une ligne santé. Sur la ligne santé, il y a une ligne VIH qui est allouée. Mais le décaissement pose problème. Quand même ce décaissement est effectif, il y a le problème de l'allocation. Comment est alloué cet argent? C'est parti où? Ça fait quoi? Ça aussi, c'est un rôle citoyen qui revient à tout le monde de pouvoir suivre si nous voulons que ça puisse être pérennisé. L'argent des partenaires est géré minutieusement parce qu'il y a les audits, il y a les contrôles. Et l'argent public, ce n'est pas seulement ici chez nous en RDC et dans tous les pays africains. Là où le gouvernement achète les ARV, là où le gouvernement donne les moyens pour la lutte, il y a beaucoup de gaspillage, il y a beaucoup de fraude. Tout ça, il faut mettre des mécanismes qui doivent suivre l'allocation de ces fonds et son utilisation.
Merci beaucoup, Madame Omari. Ces précisions sont très importantes. En réalité, vous l'avez déjà dit, la santé relève d'un des rôles principaux du gouvernement, donc il faut que le gouvernement aussi joue un rôle de contrôle. Je me rends à Kasumbalesa pour retrouver Manassé. Manassé, vous êtes là, on vous écoute.
Les activités de lutte contre les fonds sont plus visibles dans la société congolaise. Et c'est ce que moi aussi je voulais poser ma question, parce que nous sommes au mois de mars, on parle au mois de la femme. Madame, je voulais savoir, est-ce qu'il y a eu quelques propositions que vous avez faites au ministre en charge du genre et famille pour essayer d'impliquer à fond la femme congolaise dans la lutte contre le sida? Parce qu'aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a même certaines femmes dans les milieux professionnels qui sont confiantes de son état. Mais parce qu'elle a trouvé un partenaire et elle ne sait pas comment l'avouer, elle oublie tout ça et s'en bat dans l'ambiance et la contamination continue comme ça. Et puis, on constate aussi que la vulgarisation, la sensibilisation, quand on n'en parle plus, c'est comme si il y a disparition ou diminution totale de l'épidémie. Et maintenant qu'il y a une forme de pause, on croit que tout est fini. Alors, je voulais savoir, quelles sont les stratégies que vous allez prendre pour essayer d'impliquer beaucoup plus la femme dans la lutte et aussi essayer de chercher à ce qu'il n'y ait pas trop de contamination. Aujourd'hui, on parle aussi des praticiens qui sont en mesure de traiter le sida. Est-ce que vous avez eu quand même le temps de contacter aussi ces praticiens pour savoir si réellement ils ont des produits traditionnels qui sont à même de traiter le sida ou encore de réduire la possibilité de contamination? Il y a aussi les produits chinois que certaines femmes prennent en disant que ça réduit la puissance de contamination. Est-ce que vous avez fait des investigations déjà pour essayer de donner quand même une bonne lumière sur ça?
Bonne question, Manassé. Madame Omari.
En tant que femme plus, nous nous alignons à ce que les ministres, les ministères de la Santé donnent comme orientation. Et ce que le ministère de la Santé donne comme orientation, via des normes internationales ici de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, il y a tous les comités internationaux qui orientent la santé. Donc nous ne faisons pas la promotion de produits, que ce soit chinois, que ce soit traditionnel, qui font que si vous faites ceci, si vous faites cela, ça peut réduire la transmission ou la contamination du VIH. Donc nous faisons une éducation pour dire que toutes ces pratiques qui fragilisent plus la femme, ne l'expose qu'à une infection plus... C'est une infection plus probable à l'infection à VIH qui ne la protège, en fait. Donc, nous ne sommes pas pour de pratiques autres que celles recommandées par la médecine moderne. Donc, il y a des convictions, il y a des pratiques que les femmes, que les hommes font, mais nous ne faisons pas cela. En ce qui concerne la première question, qu'est-ce que nous faisons pour assurer la disponibilité des ARV? Nous faisons que donner l'information. Là où il y a les ruptures, là où il y a les problèmes, par exemple, à Goma, comme on a eu à les relever maintenant, c'est une information pour nous et nous allons prendre contact avec le responsable de PNLS de la prise en charge. On va faire la remontée de l'information. Et Goma, c'est une zone du fond mondial. Et c'est pour nous une opportunité dès que nous avons de telles informations, parce que souvent les gens de l'intérieur ne sont pas en contact direct avec ceux qui prennent les décisions, avec ceux qui prennent l'argent, nous, avec ceux qui donnent l'argent, je m'excuse. Nous, comme société civile présente à Kinshasa, nous profitons chaque fois qu'il y a des visites de terrain de l'équipe pays du Fonds mondial pour partager avec elle les difficultés de terrain. Et nous sommes souvent des voix, des sans-voix de toutes ces structures, de toutes ces personnes avec le VIH qui sont dans les tréfonds de notre pays. Parce que nous-mêmes, nous n'avons pas le pouvoir de garder les médicaments à nous. Les médicaments sont dans les structures appropriées de l'État et nous ne sommes que des fournisseurs de services.
Positif, ne le rejette pas, ne l'abandonne pas, ne le fuis pas. Si ta sœur est séro, positive, ne la rejette pas, ne l'abandonne pas, ne la fuis pas. Si ton partenaire ou ta partenaire a le VIH, ne l'accuse pas, ne le condamne pas, ne lui en veux pas. Être séropositif n'est pas une fatalité. Être séropositif n'est pas quelque chose de dramatique. On peut même manger dans la même assiette avec un séropositif. On peut même dormir sur le même lit avec un séropositif. On peut même se laver dans un même vaisseau avec un séropositif. Sans danger, alors offrons-leur notre amour. Je dis bien sans danger, alors offrons-leur notre amour. Why? Ce sont les pleurs d'une dame enceinte et séropositive. Aujourd'hui rejetée, chassé par monsieur son mari. Ces derniers croient être ainsi en sécurité, alors que c'est faux. Tant que tu n'as pas fait ton test de dépistage, c'est pas la peine d'accuser ta femme. Et inutilement, car nul ne sait entre vous deux qui a contaminé qui. Et s'il arrivait par miracle que tu aies déclaré séronégatif, raison de plus pour aimer ta femme séropositive. Quand il est devant le maire, tu disais être prêt pour le meilleur et pour le pire. Why? Avec la misère, la pauvreté qui sévit dans nos sociétés, les plus exposés au sida sont nos mères, nos femmes, nos filles, nos sœurs, victimes souvent des viols en période de guerre et même de paix. Mais aussi de nos jours, quand vont se marrer, les filles veulent paraître, elles veulent être devant, peu importe le prix, même au risque de leur vie. Résultat, la gente féminine est la plus touchée par le VIH. chez nous en Afrique. Quand tu parles chien, il faut aussi parler à l'os. Quant à nous les hommes, en tout cas, 75% des hommes, nous sommes de véritables donjons, des infidèles chroniques dans nos cités. Avec nos histoires de deuxième bio, ou d'Ignaï, ou de Fréchini. Alors, au lieu d'accuser Y ou X, sache d'abord ta sérologie. Car avant de rencontrer madame, qu'est-ce qui nous dit que toi tu étais sain? Je t'apprends que de nos jours, une femme enceinte qui a le VIH dans son sang peut accoucher d'un enfant séronégatif bien portant. Je ne mens pas, petit
à petit. Nous sommes presque à la fin de l'émission. Nous allons nous rendre rapidement à Mbujimaï, où la campagne Objectif Zéro de l'ONU-SIDA est considérée par les PVV comme un vœu pieux. Et ceci aussi longtemps que le sida demeure une maladie incurable. De Mbujimaï, voici Jean-Hubert Bondo.
Une génération sans sida, comme le préconise le chef de l'État, Joseph Kabila, beaucoup de PVV de Mbujimaï n'y croient que très peu. Selon les personnes contaminées, tant qu'il n'y aura pas de vaccin contre le VIH, on ne parlera jamais de génération sans sida. C'est ce que nous ont déclaré trois femmes PVV qui malheureusement se sont abstenues de parler à notre micro. Mais pour le ministre provincial de la Santé, Joseph Kalombo-Lunda, une génération sans sida, c'est possible. Et le gouvernement espère y parvenir par la sensibilisation.
Le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, a fait une déclaration pour une génération sans sida. Et cette déclaration devrait être répercutée dans toutes les provinces, ici chez nous, au Kasaï-Oriental. Notre plan quinquennal de croissance et d'emploi 2011-2015 repose pour le secteur de la santé ou le ministère de la santé sur cette lutte-là des grandes endémies. Comment y parvenir chez nous? C'est par la sensibilisation. On doit sensibiliser la communauté, la population, que la population évite tous les comportements de risque pour avoir une génération sans sida. C'est ça notre lutte. Nous devons sensibiliser la communauté.
Au PNLS, Kasaï Oriental, on abonde dans le même sens du vœu du chef de l'État et de la campagne Objectif Zéro de l'ONU-SIDA. Selon Dr Placide Ouello, coordonnateur du PNLS Kasaï Oriental, certes, il reste beaucoup à faire, mais les améliorations sont désormais palpables dans la lutte contre le VIH. Dr Placide Ouello.
Au Kasaï Oriental, cet objectif de l'ONU-SIDA, ou les triple zéro, nous pensons que c'est vraiment l'idéal, que nous devons militer à tout prix pour atteindre cet objectif de zéro nouvelle infection, zéro discrimination, zéro décès. Mais quant à la progression de performance actuelle au niveau de la province, la tendance est bien sûr à la baisse par rapport aux nouvelles infections. La discrimination est en train d'être de plus en plus réduite. Et par rapport au décès, selon les résultats que nous avons eus en 2013, la tendance est à la baisse par rapport aux années antérieures.
De Mbujimaï, Jean-Hubert Bondo, votre santé, votre avenir, la voix de l'Amérique.
Nous sommes à la fin de l'émission. Madame Omari, merci de votre expertise, merci de votre participation. C'est avec plaisir que nous vous retrouvons souvent. Merci beaucoup et bonne soirée à Kinshasa.
Bonne soirée, à plus.
Merci. Merci. Je dis aussi au revoir à mes amis de Kasumbalesa d'abord. Au revoir, Manassé. Au revoir, Manassé. Bien, la ligne n'est pas très claire. Au revoir aussi à Claude de Kiavanga.
Oui, bonsoir et bonsoir à tous les amis et à tous les fidèles de la Voix de l'Amérique.
Merci, au revoir. Votre santé, votre avenir, c'est terminé. Technique Jackson Wheat. Réalisation Fatima Kalala. Micro Khalil Gay, au revoir et à la semaine prochaine.